chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce 89e numéro d'En Spectateur proposé aujourd'hui en partenariat avec les Célestins. Nous allons parler de Tristesse, une pièce conçue, écrite et mise en scène par Anne-Cécile Vandalem, qui passe encore jusqu'à ce soir, samedi 31 mars à 20h au Théâtre des Célestins. Donc, pour en parler avec moi, deux chroniqueuses qui ont déjà vu la pièce, une chroniqueuse très habituelle et très habituée de cette émission, Juliette.
Bonjour Marie.
Et une chroniqueuse qui n'est pas venue depuis longtemps, mais qui est abonnée à ce genre de titre. La dernière fois, tu étais venue nous parler de mélancolie, et cette fois, ce sera Tristesse. Bonjour Léa.
Bonjour Marie.
Alors, vous êtes toutes les deux allées voir Tristesse. Alors, l'intrigue de cette pièce, on est en 2016, on est sur une île danoise, et l'intrigue commence avec une pendaison, une femme qui s'est pendue avec le drapeau du Danemark. On est sur une petite île avec peu d'habitants, qui vivent dessus, et on est dans un contexte politique dans lequel c'est un parti, qui est toujours nommé comme le parti, mais dont on sent bien qu'il est d'extrême droite, qui est en train de prendre énormément d'importance dans le pays. Et c'est la leader de ce parti qui revient sur l'île, puisque la femme qui s'est pendue, il s'agit de sa mère. Alors voilà un petit peu pour le cadre général, et à partir de là, on suit un peu cette très petite communauté qui vit sur une île et qui est perturbée par une arrivée extérieure. Alors, quand vous êtes sortie du théâtre, votre première impression ?
Moi, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Contrairement à Juliette qui était au balcon, moi, j'étais dans l'orchestre. Du coup, je me suis vraiment pris la pièce de
dans plein fouet.
Et comme c'est une pièce qui te donne pas le choix, t'es obligée de rentrer dedans. Enfin, en tout cas, comme je l'ai ressenti, parce qu'on est sans cesse simulé par des fusils qui sont braqués sur les spectateurs, donc en plus, enfin surtout actuellement, je pense que ça nous fait un effet un peu étrange, par la musique, par quelque chose d'extrêmement immersif. Quand on en sort, enfin moi j'étais écœurée.
Juliette.
Moi je n'ai pas spécialement été immergée, sans doute parce que j'étais, oui effectivement, plus loin. Et je n'ai pas été totalement séduite ni par l'espace qui était occupé vraiment beaucoup par des petites maisons, donc on aura l'occasion de parler de la scénographie, j'imagine, mais qui réduisait énormément l'espace de jeu des acteurs. Et je n'ai pas non plus été séduite par le fait qu'il y ait une omniprésence de films, enfin de petites vidéos tournées en direct sur scène, afin de filmer l'intérieur de ces petites maisons, puisque finalement, l'essentiel de l'intrigue se déroule à l'intérieur des maisons. Je trouve que ce côté cinématographique était vraiment omniprésent et j'ai eu l'impression de sortir du cinéma quand je suis sortie du théâtre.
Plutôt que de sortir du théâtre. Alors, cette scénographie, bah, tu as commencé à en parler. Est-ce que vous pouvez la décrire un petit peu pour nos auditeurs et auditrices ? Donc, vous avez dit des petites maisons, quoi d'autre ?
Ben, en fait, essentiellement ça. Des petites maisons. Comme on a une petite communauté, on nous montre donc, voilà, ces petites cabanes, en quelque sorte, en bois, qui sont sur scène. Et en fait, on les découvre dès le début, puisque le personnage du père, Soren, est en train de jouer à un jeu de société avec sa famille à l'intérieur d'une de ces petites maisons. Et ça nous pose déjà un peu l'ambiance, puisque ce jeu n'est pas vraiment un jeu très serein, et on sent tout de suite la tension au sein de la famille, et la tristesse même, en plus de la tension. Enfin, ce début est assez affreux. Et à côté de ça, c'est très léger. Enfin, le père pose une question un peu sur Bob l'éponge, en fait, pour être très clair. Donc, c'est un peu, bon, c'est un peu léger comme ça. Et donc, il va aller de maison en maison pour poser sa question afin d'avoir la réponse, puisque sa femme ne lui a pas donné la réponse. Et c'est à ce moment-là qu'il va donc un peu nous montrer comment cela est agencé et aussi découvrir cette femme qui s'est pendue, puisqu'il va aller aussi dans sa maison lui poser la question. Et bien sûr, il va la découvrir. Et c'est à partir de là que tout se lance. Et donc, voilà. Donc, cet espace est au début, voilà, occupé de cette façon. Et très vite, il sera un peu vide. Et ce sera plutôt l'intérieur de ces petites cabanes qu'on va découvrir.
Parce que tout le long, donc, quand il fait ce circuit de maison en maison, il est suivi, en fait, par la caméra.
Ouais.
Et je les trouve très bien tournées, ces images. Après, la question, c'est est-ce qu'au théâtre, il faudrait qu'on regarde un écran qui est suspendu au-dessus de la scène que la scène elle-même. Parce que finalement, j'ai l'impression que le plateau sert plus aux mouvements de caméra, qui sont certes très bien faits, mais qui, du coup, nous décentrent, nous et les comédiens aussi, dans leur jeu, d'un jeu de plateau.
Oui, complètement. Des fois, notre attention est happée par trois points à la fois. Donc cet écran qui est au-dessus des maisons, en fait. la musique qui est sur scène, côté cour, côté jardin, au centre, et les personnages qui parfois, en même temps que d'autres sont filmés, se trouvent sur scène en train de faire autre chose, et d'autres personnages qui sont dans une maison qui est ouverte. Et donc notre attention est happée par beaucoup de choses à la fois, et moi, donc là, malgré le fait que j'étais loin, j'arrivais pas à me concentrer même sur les trois, on va dire, les trois points à la fois. Et je ne regardais que l'écran, et finalement, je trouve ça dommage d'aller au théâtre pour regarder un écran tout le temps.
En fait, de ce que vous avez l'air de dire, j'ai l'impression que tout ce jeu autour de l'alternance film, scène, etc., ça affecte un peu la manière dont vous avez perçu le jeu des acteurs d'une part et la dynamique générale de la pièce, en fait.
Oui, totalement. Je trouve que donc, il manquait de place pour vraiment évoluer sereinement sur le plateau. Et en plus, au niveau de ce qu'ils exprimaient, ça m'a beaucoup gênée puisque dans les petites vidéos, ils étaient souvent filmés très près. Enfin, on voyait essentiellement leur visage, voire le haut du corps, me semble-t-il. Et donc, ils avaient besoin simplement de faire des petites mimiques ou des petites choses très fines pour exprimer leurs émotions. Et par contre, une fois sur scène, soit c'était très vide parce que d'un seul coup on les voyait sans la médiation de l'écran, soit au contraire à la fin quand ils exprimaient des émotions très fortes, qu'ils éclataient en sanglots, qu'ils criaient ou que sais-je, d'un seul coup moi je n'arrivais plus du tout à rentrer dedans parce que ça me paraissait complètement vide et ça n'avait pas sa place dans la continuité de ce qui venait d'être fait dans les écrans. Ça faisait complètement artificiel. Mmh. Et ça m'a beaucoup gênée et je trouvais ça vraiment dommage que... Enfin, je trouve que c'était vraiment la faute des écrans parce qu'ils prenaient beaucoup trop de place.
Je pense que c'est aussi la faute d'une construction de personnages qui manque peut-être d'un feuilleté un peu plus dense, mis à part pour le pasteur. Donc là, on a accès à une sorte un peu d'archéologie personnelle avec ce qui lui arrivait dans son enfance, etc. Je trouve que comme la pièce privilégie plutôt une dynamique de groupe et ce qui se passe dans cette île en général, on perd peut-être à ce qu'on aurait pu gagner quand même en une heure avec des personnages. Moi, j'aurais bien aimé les voir mieux construits personnellement, autrement que par des anecdotes du passé qui viennent comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que quand ils sont sur scène et qu'ils se mettent à pleurer tout à la fin, on a un peu du mal à vraiment y croire.
Oui, c'est vrai, parce que par exemple, la mère qui pleure quasiment tout le temps, on ressent de l'empathie parce que son mari est vraiment caricatural et affreux. Mais en même temps, on ne comprend pas très bien ce personnage, et peut-être juste parce qu'il est symptomatique de la tristesse qui s'empare de l'île. Mais je trouve effectivement que les moments les plus beaux, ce sont ceux où on a une vraie dynamique de groupe et où on sent ce côté petite communauté fermée qui, d'un seul coup, peut complètement exploser à cause d'un petit problème qui vient de l'extérieur. Et le moment notamment où ils viennent de tirer et qu'ils ont tous des casques et un cache-œil pour qu'ils ne voient qu'avec un œil pour tirer, et qu'ils se retournent tous contre un seul personnage et que d'un seul coup, je crois que la lumière change, elle devient encore plus inquiétante qu'auparavant, et d'un seul coup on a ce truc d'une image presque figée avec tous contre un seul, et j'ai trouvé ça très très beau, et là on retrouvait de la dynamique, et là on avait quelque chose de groupe, et on ressentait ce que pouvait être cette communauté véritablement à ce moment-là.
Et en plus, c'est un costume qui leur donne un aspect un peu robotique. Enfin, c'est une image... c'est vraiment une très très belle image de la pièce.
Alors, globalement, sur le plan esthétique, du coup, cette pièce, qu'est-ce que ça vous a inspiré au niveau du traitement de la lumière, du traitement des costumes et de ce genre de choses?
Alors, c'est très joli. On a ces petites maisons un peu à la Hopper. Donc, c'est tout bleu avec des petits inserts de jaune par endroits. Tout, même les costumes, tout va bien, très, très bien ensemble, même avec leur teint un peu blafard. C'est très bien accordé. Après, je me suis demandé s'il n'y avait pas là une forme de joli, très 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 bel enrobage. Et si plus de sobriété n'aurait pas plus servi le propos. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une forme de grosse ficelle quoi, qui nous séduit forcément. Mais je me demande si j'aurais pas aimé un peu plus de discordance, quelque chose un peu moins liché, ou d'un peu moins voyant, en fait.
D'accord.
Moi, je sais pas exactement ce que j'en pense, parce que j'ai moins perçu ce que tu as pu percevoir, mais peut-être que le fait que la lumière soit d'emblée un peu froide et un peu bleue, comme tu l'as dit, nous mettait tout de suite dans ce qui allait se passer et ne ménageait pas tellement la situation, alors que la pièce dure quand même 2h15, je crois. Et voilà, on savait immédiatement que quelque chose allait déraper. Enfin, c'est très clair et c'est peut-être pour ça aussi que c'est dommage.
C'est vrai. Ouais. Alors justement, le propos de la pièce, on va en parler un peu plus, parce que c'est quand même une intrigue avec une forte charge politique dedans. Dans la manière dont c'est traité, dans le propos qui est porté par la pièce, est-ce que c'est quelque chose qui vous a paru intéressant et qui vous a paru bien traité, cette dimension politique ?
Alors, dans l'ensemble, la manière dont les affaires de chacun... Parce que, en fait, il y a, mis à part la montée de l'extrême droite, il y a toute une histoire de détournement d'argent par rapport aux abattoirs de Lille qui ont fermé. C'était une intrigue qui, je pense, à l'origine était assez compliquée et ils réussissent à la rendre plutôt explicite. Donc, bien joué. Après, le discours d'extrême droite, c'est un discours, je pense, qu'un public de théâtre, déteste forcément. Donc, j'ai quand même un peu le sentiment d'avoir été brossée dans le sens du poil. Je sais pas quoi en penser. Je me dis, est-ce que c'était pas un peu trop gros, cette Marine Le Pen sur scène qui nous fait ce discours que forcément on déteste ?
Et peut-être que tu aurais aimé quelque chose de plus subtil, alors.
Oui, en fait, j'aurais bien aimé, pareil, voir un feuilleté un peu plus dense dans ce personnage, autre chose que la Marine Le Pen qu'on voit à la télé. Enfin, c'est peut-être aussi un peu comme ça qu'on va au théâtre pour, enfin, comment dire, être déconforté, quoi. Mmh.
Et en plus, à la fois, ce discours est mis au centre de la pièce et en même temps pas tellement, et en même temps il est caricatural et il apparaît qu'à certains moments, soit avec des blagues vraiment affreuses, antisémites ou racistes, ou les deux combinés, tout ce qu'on veut, soit donc vraiment à travers ses discours, effectivement, comme tu le dis, qui ressemblent trait pour trait à ceux de Marine Le Pen. Et je trouve qu'étant donné le cadre, le fait qu'on ait une petite communauté et qu'on sent déjà qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier, enfin c'est pas du tout un cadre anodin, c'est pas une société traditionnelle, on va dire, c'est vraiment un petit, c'est 8 habitants, quoi, enfin 7 puisqu'il y en a une qui décède dès le début. Mais et je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus subtil en termes de petits dangers venus de l'extérieur qui aurait pu être autre chose que le danger de l'extrême droite, puisqu'on comprend très bien que cette communauté peut s'effondrer avec n'importe quoi qui pourrait arriver et qui leur serait étranger, sans que ce soit des personnes migrantes ou sans que ce soit ce danger-là qui est soulevé par l'extrême droite dans nos sociétés. Et je trouve que ça aurait gagné en subtilité le fait qu'on traite de manière un peu plus métaphorique cette peur de l'autre, étant donné le cadre qu'il s'était fixé au départ et qui est un cadre vraiment... c'est génial de monter ça au théâtre, le fait de montrer une petite communauté comme ça, c'est vraiment je trouve que c'est une très bonne idée.
Oui, sans avoir besoin de forcément de parler de vagues d'immigration,
oui, voilà,
et de
exactement.
Tout ce qu'on a peut-être tendance à trop entendre dans les médias et qu'on n'a peut-être pas envie de voir porter comme ça, transposé tel quel sur une scène de théâtre. Alors, un élément qui ponctue un petit peu la pièce, c'est la fable du Léviathan. Comment c'était introduit dans cette pièce, dans cette histoire, et qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Ouais, mais c'est vraiment un des éléments que j'ai bien aimé pour la pièce. Pour le coup, il y a quelques petits détails comme ça qui traînent un peu le long du film... lapsus révélateur, le long de la pièce qui m'a beaucoup plu. Donc le Léviathan, on le voit à travers une représentation à un moment sur laquelle la caméra fait un zoom alors que notre attention est portée sur autre chose. Donc ça reste quand même une lame de fond ou un petit palimpseste comme ça assez discret. Et puis, assez discret, non, il y a quand même des musiques qui portent sur le Léviathan qui sont passées. Donc c'est, je sais plus, un opéra, c'est chanté plusieurs fois.
Oui.
Et oui, ce Léviathan qui serpente un peu comme ça, sous la pièce en quelque sorte, je trouvais que c'était une très belle image. Et là, on trouvait une finesse qui, étrangement, était absente d'autres moments. Donc, ouais.
Précisément parce que c'était traité comme une métaphore de ce qui se passait. Et c'est justement là que c'était judicieux et heureux en termes de mise en scène. Et en plus, comme tu l'as dit, c'était chanté. Et donc, ça permettait d'être lié à la musique qui est aussi importante dans la pièce. Et donc c'était porté par cette femme qui est morte et qui va revenir sur scène comme tous les morts, et aussi par une jeune fille qui ne parle pas et qui ne s'exprime qu'en chantant et qui à certains instants de la pièce va chanter cette chanson, enfin différents couplets de ce chant qui marqueront en quelque sorte, je pense, les actes de la pièce pour montrer l'évolution de ce qui se passe à travers la fable. Et c'est vrai que c'était assez beau et doux. Et en même temps un peu inquiétant, et je trouve que oui, ça rendait le tout très beau.
Ouais, plutôt bienvenue dans la pièce. Alors tu parlais des morts, on va en parler justement, puisqu'ils représentent toute cette intrication du passé et du présent dans la pièce. Ça, j'ai l'impression que c'est un aspect qui vous a beaucoup plu.
Oui, ils étaient, les morts étaient magnifiques et ils étaient donc très, encore plus pâles que les autres personnages, habillés avec des vêtements très très clairs. Donc on en avait trois sur scène, dont deux qui viennent dès le début. Ce sont sans doute les premiers personnages qu'on voit et qui viennent s'installer à cour et à jardin pour jouer de la guitare électrique et de la batterie, et qui viendront aussi jouer du piano qui se trouve plus au centre de la scène. Et donc ils vont circuler comme ça par instant entre les personnages. Et de manière tout à fait délicate, et bien sûr les autres personnages ne les voient pas, ou quand ils les voient, on ne sait pas vraiment s'ils sentent une présence ou s'ils les voient comme des retours du passé et de leur culpabilité, parce que voilà, les morts sont porteurs de la culpabilité. Et j'ai trouvé ça très beau, et là pour le coup, ils étaient très bien traités dans les écrans, quand ils apparaissaient soudainement à certains moments de la vie, etc., et qu'ils étaient d'un seul coup assis sur une chaise, par exemple, et on ne les avait pas vus auparavant, et je trouvais ça très beau. Et à cet égard, je trouve simplement que, parce que je crois qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé des vidéos, je trouve que les ressorts un peu faciles de, on fait de l'horreur, enfin du, un peu des trucs de films d'horreur sur les écrans, à travers les personnages des morts, mais aussi à travers d'autres personnages qui surgissent d'un seul coup sur l'écran, étaient beaucoup moins bienvenus que les moments plus subtils où les morts venaient se placer. On les voyait arriver, mais comme les autres personnages ne les voient pas, c'est inquiétant, mais sans que ce soit, regardez, on fait de l'horreur au théâtre et on essaie de vous surprendre. Et je trouve que là, c'était judicieux.
Mais c'est des personnages incroyables. Enfin, et puis cette manière de jouer, j'ai jamais vu de mort jouer. Non, mais ils ont cette espèce de tenue et de regard parfait. Et puis on a l'impression d'avoir le choix de les regarder si on veut. Et ils entrent comme ça le plateau dans des mouvements qui en plus j'imagine ont dû être super compliqués à millimétrer et qui viennent un peu ramener comme ça des choses anciennes mais sans les pointer directement du doigt en nous disant il y a quelque chose qui est présent.
Oui, et ce n'est qu'à la fin que vraiment ils interagissent en bousculant un des personnages, enfin en le poussant, mais vraiment dans la toute fin du spectacle. Et c'est là qu'on voit que le passé a vraiment une emprise extrêmement forte sur ce présent et qu'il peut ressurgir à tout instant. Et ça a tout à fait à voir avec l'intrigue, comme tu l'as dit, les problèmes avec de détournement des fonds, etc. Et de plein de problèmes sous-jacents qui sont découverts au fil de l'intrigue. Et ça, c'était plutôt bien que... Les morts jouent aussi avec ça, mais de manière, une fois de plus, beaucoup plus subtile que d'autres éléments.
Alors, une question pour refermer la discussion. Cette pièce, on en a vu un peu les bons aspects, et puis aussi les aspects un peu plus dérangeants, peut-être. Est-ce que c'est une pièce que vous recommandez ?
Moi, je ne la recommande pas... Non, je ne la recommande pas spécialement. En fait, je trouve qu'il y avait des moments très beaux, vraiment des moments de... très fins comme ça, des petites fulgurance délicate, mais globalement j'ai quand même un peu regardé ma montre, j'avoue, et je me suis un peu ennuyée sur certains moments, notamment sur les moments où il fallait uniquement regarder l'écran, où je me suis dit là c'est vraiment un long long moment sur l'écran et c'est dommage de venir au théâtre pour regarder un écran aussi longtemps.
Moi j'ai pas du tout trouvé le temps long parce que je me suis laissée vraiment prendre dans cette pièce, Et comme toi, c'est vraiment les moments de ces petits moments d'éclaircie qui me reviennent après coup et que je pense avoir bien aimé. Mais de manière générale, non, c'est pas une pièce que je conseillerais. Même si j'aime beaucoup, enfin là, en réfléchir maintenant avec toi, et puis que c'est une pièce aussi qui me fait réfléchir à ce que j'aime voir au théâtre, à ce que j'aurais envie de changer dans la pièce si j'y étais, etc. Donc c'est intéressant d'en discuter, mais je pense pas que je la conseillerais, non.
Merci pour cette non-recommandation, du coup, merci à toutes les deux. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de ce numéro d'En Spectateur. Merci à vous de l'avoir suivi. Il était animé aujourd'hui par Marie Lécuyer avec Juliette Meul et Léa Jusso. On vous retrouve très bientôt au mois d'avril puisqu'on aura plein de spectacles dont on pourra vous faire part. Et puis bien sûr, on vous fixe dès maintenant le rendez-vous du 11 avril puisqu'En Spectateur sera la journée de la radio et pour l'occasion, nous recevrons une actrice belge, Mathilde Maillard, qui viendra nous parler du spectacle dans lequel elle joue. Et on traversera le pont une fois rendu à la rivière, spectacle qui a la particularité de pouvoir être suivi soit dans un théâtre, soit chez vous, depuis votre canapé. Donc on a hâte de vous parler de tout ça. D'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, N'oubliez pas de vivre en spectateur.